Bonjour, ici Radio Grand Ciel, Châteaudun. Henri à la technique, Jean-Claude à l'interview. Nous recevons aujourd'hui le docteur Perdereau, qui est président d'une association qui est peu connue dans la région, mais qui mérite de l'être. Bonjour, docteur Perdereau. Parlez-nous un petit peu de l'association de cette tour de Bois-Ruffin.
Alors, la tour de Bois-Ruffin est donc la propriété de la commune nouvelle d'Arroux depuis février 2020. L'association Les Amis de Bois-Ruffin a été créée le 19 juin 2021, il y a donc plus de 6 mois. Celle-ci a pour but de faire découvrir au public la forteresse et son histoire en y organisant des visites guidées, notamment pédagogiques, auprès des écoles par exemple. D'animer ce lieu en y organisant toutes sortes de manifestations culturelles, festives, touristiques ou sportives. De contribuer et participer à la restauration de l'habitat sur le site en vue de la création de salles d'exposition, temporaires ou permanentes, par exemple, ouverture d'un petit musée d'outils agricoles anciens. Le siège social de l'association est fixé à la mairie, 12 Grande Rue à Arroux. Ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire. Pour être membre, il suffit de payer une cotisation annuelle de 10 euros, de mettre un chèque avec votre nom, votre adresse postale et votre mail dans la boîte aux lettres de la mairie. Le mail de l'association est associationboisruffin@orange.fr. Pour faire un don à l'association, si vous le voulez, deux façons. Soit par chèque bancaire à l'ordre de l'association, soit par la cagnotte en ligne qui est Hello Asso comme les amis de Bois-Ruffin. Il est bien entendu que la commune est propriétaire du site et qu'en aucun cas l'association ne peut entreprendre des travaux sans son autorisation.
Alors, justement, cette tour de Bois-Ruffin, vous me dites qu'elle est à Arroux, mais... Moi qui suis un touriste, comment vais-je faire pour aller trouver cette tour de Bois-Ruffin lorsque je suis à Arroux ?
Alors, Bois-Ruffin se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Châteaudun, à peu près à mi-distance de Montmirail et de Frédéval, sur un plateau parsemé de bosquets qui rappelle l'ancienne forêt médiévale. Donc, quand vous êtes à Arroux, vous prenez la direction de Grande Rue d'Arroux, et à gauche, vous prenez la route du Gau du Perche. Et à 7 km sur la gauche, on aperçoit très bien, maintenant que ça a été dégagé, on aperçoit la vieille tour qui fait 19 mètres de hauteur. Cette tour a été construite entre 1240 et 1250, et elle a donc 770 ans. Et elle est dans un état de conservation remarquable. Par contre, le logis qui la jouxte a besoin de travaux.
Et vous avez réussi à trouver de la main-d'œuvre pour réaliser ces travaux ? Vous avez des bénévoles ? Vous avez...
Alors, on commence. On a donc une dizaine de bénévoles. Et là, il y a 3 jours, on vient de refaire les toilettes dans le logis. Et on fait ça nous-mêmes. Alors, donc, ce site de Bois-Ruffin se divise en 2 parties bien distinctes. On a la basse-cour, où se trouve le logis, et le noyau fortifié. L'accès se pratique dans la basse-cour, au nord, par un petit pont qui enjambe le fossé et mène à l'ancienne porte ruinée. Cette porte est aménagée entre 2 contreforts, saillants. Il subsiste actuellement les murs latéraux, un arc brisé et la rainure de la herse. La basse-cour, assez vaste, semble n'avoir été close par aucun dispositif maçonné. En deçà des fossés, il est probable qu'une simple palissade protégeait l'intérieur. Des bâtiments initiaux ne subsistent plus aucune trace apparente. Sur la façade nord s'alignent maintenant des constructions rustiques, parmi lesquelles un bâtiment à abside semi-circulaire daté de 1600 qui a joué le rôle d'une chapelle tardive. Puis, vers les années 1900, elle a servi d'écurie. Des douves assez larges séparent la basse-cour du noyau fortifié. Pour les franchir, un pont bétonné remplace de nos jours une passerelle en bois disparu. Du côté sud, une passerelle en bois mobile devait relier la courtine au noyau fortifié. Cet îlot, que nous appelons noyau fortifié, était ceint d'un rempart de terre grossièrement circulaire, couronné par une enceinte polygonale flanquée par quelques tours semi-circulaires actuellement en ruine. Le mur d'enceinte lui-même est passablement détruit. Au nord, le rempart s'interrompt pour laisser la place à une massive tour carrée pourvue de deux contreforts. Il s'agit d'une tour de poterne à trois niveaux. L'entrée se pratique actuellement au rez-de-chaussée par une baie qui semble avoir été percée de façon récente, peut-être au XVIIIe siècle. Au rez-de-chaussée, nous ne trouvons plus qu'une ouverture authentique, la poterne qui s'ouvre vers l'intérieur du noyau fortifié. Rectangulaire, cette poterne est couverte d'un tympan semi-circulaire sous arc de décharge. Elle servait uniquement à faire communiquer la plateforme du réduit fortifié avec l'intérieur de la tour-porte. Le second niveau possède quatre ouvertures qui sont toutes des poternes de type que nous venons de rencontrer. Toutefois, leurs tympans ont été arrachés. La poterne de la face nord permettait l'accès depuis l'extérieur. Celle des faces est et ouest donnait sur le chemin de ronde des courtines voisines au sommet du rempart de terre. Enfin, celle de la face sud permettait, par l'intermédiaire d'un escalier, de descendre sur la plateforme du réduit fortifié. Au troisième niveau se trouvait concentrée toute la défense. On note encore, au nord, les restes de l'ancien crénelage avec des archères percées dans les merlons. Pour finir sur cette tour, notons sur le plan technique que les trois faces, est, nord et ouest, furent bâties d'un seul tenant en grison. Par contre, la face sud, qui est la face interne, fut réalisée en un blocage de pierre beaucoup plus grossier. Après avoir franchi cet imposant obstacle, qui était la tour-porte, on entrait dans le noyau fortifié lui-même, qui n'est qu'une plateforme circulaire encaissée à l'intérieur des remparts. Sur cette plateforme, en position légèrement décentrée, se dresse l'imposant donjon de Bois-Ruffin. Cette position décentrée s'explique assez facilement. En effet, la poterne du donjon s'ouvre à l'ouest et on a tenu à l'écarter au maximum du rempart de terre pour ne pas faciliter l'accès. De ce fait, le centre du donjon s'est trouvé reporté vers l'est. Le donjon comprend quatre niveaux. Son état de conservation externe est impeccable puisque lui-même, le crénelage est encore visible. Il est bâti en grison. Dans les parties visibles depuis la basse-cour, règne un bel appareil moyen, alors qu'ailleurs, l'on s'est contenté d'un simple blocage. Ce curieux désir d'économie a donné lieu à des discontinuités d'appareils horizontal et vertical qui pourraient faire croire à des remaniements si le tout n'était pas parfaitement homogène. Le donjon a 7,45 m de diamètre interne. Ses murs ont une épaisseur de 3,60 m, ce qui porte son diamètre extérieur à 14,65 m. En effet, 3,60 m plus 3,60 m plus 7,45 m, ça fait 14,65 m. Ces étages étaient simplement planchéifiés. Une passerelle mobile reliait la poterne située au second niveau au rempart de terre. De la poterne, un couloir voûté donne sur la salle, alors que sur la droite, un petit couloir mène à une latrine en encorbellement. À l'intérieur du donjon, le premier niveau n'était accessible que par un escalier en bois, et ce depuis le second niveau. Doté d'un puits en son centre, il était éclairé par quatre soupiraux et servait vraisemblablement de magasin.
Alors là, vous êtes, vous le dites donc Bois-Ruffin, mais moi je me pose une question. Je vois cette architecture importante, etc. Mais pourquoi aller construire donc une tour à Bois-Ruffin, excusez-moi l'expression, qui est dans un lieu un peu perdu, il n'y a rien autour, mais pourquoi aller faire une tour là-bas?
Alors pourquoi? Parce que Bois-Ruffin a été un lieu de défense avancée du château de Courtalin. Et Bois-Ruffin, si on regarde sur une carte, il est à peu près à mi-distance entre les forteresses de Montmirail et de Frédéval. Et pendant la guerre de Cent Ans, il a été pris et repris par les Anglais.
Bien, eh bien, on va écouter une petite pause, on va faire une petite pause et écouter un petit peu de musique. Oui, donc merci. Nous repartons donc à Bois-Ruffin, faire notre voyage de Châteaudun à Bois-Ruffin, d'abord à Roux. Et si on veut pas se perdre, donc on prend la route du Gau-du-Perche. Donc on ne devrait pas se perdre. Docteur, à vous la parole.
Donc j'en étais au second niveau de la tour. Donc le second niveau possédait une cheminée dont la hotte, portée par des poutres encastrées dans le mur et soutenue par des corbeaux, a disparu. Une minuscule ouverture éclairait parcimonieusement la salle, alors qu'au fond d'une chambre était percée une belle archère à étrier triangulaire et double croisillon horizontal. Il est vrai que ce niveau, situé à la même hauteur que le chemin de ronde du rempart, était assez vulnérable, et ceci explique que l'on n'ait pas cherché à l'ouvrir plus sur l'extérieur. Du second au troisième niveau, la communication pouvait s'effectuer par un escalier en bois intérieur. Ce troisième niveau était doté, comme le niveau inférieur, d'une latrine et d'une archère défendant les abords ouest. Il possédait également une cheminée. De plus, deux fenêtres rectangulaires à meneaux et une plus petite l'éclairaient, alors qu'une grande baie donnait vraisemblablement sur un petit balcon extérieur en bois. Toutes ces ouvertures sont ménagées sous des arcs de décharge plein cintre. Il s'agissait donc ici visiblement de la salle d'apparat où logeaient le seigneur et sa famille. Enfin, le quatrième niveau était spécifiquement réservé à la défense. Il a conservé presque intact son crénelage d'origine. On y notera les archères ménagées dans les merlons. Plus remarquable encore est la ceinture de trous de boulin qui couronne ce niveau et qui devait accueillir le hourdage sommital, hourdage en bois. Pour terminer, remarquons que le noyau fortifié possédait deux puits, le puits intérieur du donjon, et le second se trouve près de la tour-porte au flanc du rempart de terre. Un fait apparaît remarquable, contrairement à l'habitude, le noyau fortifié n'est pas constitué par une motte, mais au contraire, par un rempart ceinturant une modeste plateforme circulaire.
Alors donc, cette tour de Bois-Ruffin a été construite, en fait, compte dans un rôle de défense, quoi.
Rôle de défense.
Un rôle de défense.
Uniquement.
Donc, il y avait avoir autour une garnison.
Il y avait autour une garnison, et bien sûr, oui, il y avait une garnison.
Donc, cette garnison, donc, il avait forcément, entre guillemets, un chef. Il y avait donc un seigneur qui devait diriger cette... Parce que, bon, que fait-on? avec donc ce, avec ce, ce seigneur-là.
C'est fini là ?
Non, non, non.
Alors, il y a différentes familles se sont succédées à Bois-Ruffin. Alors, si on part vers donc date de la construction de la tour 1240-1250, c'était Nicolas IV de la Bruyère. Ensuite, la famille de la Bruyère s'est éteinte et par la, les femmes, c'est passé à la famille de Rouvray. Ensuite, après la famille de Rouvray, c'est passé à la famille de Boxoncle. Ensuite, c'est passé à la famille d'Avaugour. Ensuite, à la famille de Montmorency. Et ensuite, à la famille de Gothon-Biron. Actuellement, le marquis de Gothon-Biron, qui possède le château de Courtalin, et qui est toujours là, qui a une soixantaine, à peine 60 ans, est donc un descendant direct de cette famille.
Oui, parce que ce sont des familles absolument prestigieuses. Quand on parle de la famille de Montmorency, évidemment, on entre dans, les, dans le top, on peut dire, des grandes familles, puisque je crois qu'elles ont aussi possédé, qu'elles possèdent encore, en descendance, le château de Montigny. Donc c'était de très, très grandes familles.
Alors, le château de Montigny, ce n'est pas les mêmes Montmorency, c'est les,
Laval.
Les Montmorency-Laval,
exact.
Dont un ancêtre a été évêque au Canada.
Exact, tout à fait. Mais bon, il y a la souche Montmorency, elle,
oui.
Elle est intéressante, celle-là.
Alors, il y a eu, il y a eu un ancêtre d'Anne-Charles de Gothon-Biron, c'est l'actuel propriétaire de Bois-Ruffin, et un de ses ancêtres qui était, a été connétable de France, qui était un des meilleurs amis d'Henri IV.
Alors justement, vous me parlez d'Henri IV. Les gens de la région, on parle toujours des, un petit peu des folâtreries d'Henri IV dans les bois de Bois-Ruffin. C'est presque écrit lorsqu'on travaille, lorsqu'on traverse le bois. On a presque.
Alors,
on dit on va voir surgir Henri IV et puis ça accompagne. Hein, on va certainement les voir apparaître tous les deux. Donc, alors hélas, on ne les voit pas. Donc, alors, que se passe-t-il ?
Alors, dans les bois de Bois-Ruffin, je ne suis pas sûr, mais il paraît que Henri IV, parmi ses 56 maîtresses officielles, il est venu compter fleurette à la belle fosseuse, qui était Françoise de Montmorency, elle-même sœur de Jacqueline de Montmorency, qui était à l'époque... La propriétaire de Bois-Ruffin.
Ah, elle était propriétaire de Bois-Ruffin. C'est pour ça un petit peu, parce qu'on raconte aussi que Henri IV, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais Henri IV venant donc à Bois-Ruffin, s'était arrêté à l'hôtel des Canettes à Brou. Et puis à l'époque, Henri IV n'était pas quand même. Il n'avait pas la suite de notre président Macron aujourd'hui quand il arrivait. Donc il arrivait à cheval avec quelques hommes de garde et puis Monsieur de Vitry, qui était donc son chef d'état-major. Et puis un jour, il arrivait un jour le marché, un mercredi, et il n'y avait pas de place à l'auberge des Canettes. Alors il a voulu pousser un petit peu les gens, et puis les gens le voyant dans l'état où il était, parce qu'il n'était pas toujours très bien, on va dire, dans notre cas, jardin affublé. Donc il s'était fait un petit peu repousser, et il a fallu que les gens d'armes d'Henri IV disent « C'est le roi, poussez-vous de là !» Et en réalité, il allait à Bois-Ruffin rencontrer cette fameuse demoiselle. C'est quand même une belle histoire, cette affaire.
Françoise de Montmorency, dite la belle fosseuse. Alors pourquoi la belle fosseuse ? Parce que le seigneur de Montmorency, il était donc seigneur de Montmorency, baron de Fosseux. Donc on appelait sa femme la belle fosseuse. Il avait le titre de baron de Fosseux. Il était, il était seigneur de Montmorency, baron de Fosseux.
Alors cette dame avait des talents, puisque notre Catherine de Médicis l'utilisait dans un service extraordinaire qui est aujourd'hui peut-être plus puissant que le service de renseignement. Ils avaient des méthodes pour obtenir des renseignements qui étaient un peu particulières, disons, très agréables pour certains. Mais donc, ils arrivaient à obtenir des renseignements, et elle avait à une époque plus de 100 agents dans ce service de renseignement.
Donc,
dont
la belle fosseuse.
Dont la belle fosseuse. Donc, c'était quand même un beau service de renseignement. Où sont nos RG d'aujourd'hui? Donc, nous allons refaire une petite pause musicale, mon cher Henri. Donc, direction Bois-Ruffin, et toujours donc à la recherche d'un coin perdu, on peut dire, qui va devenir aujourd'hui plus connu. Il faut que les Dunois sachent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce n'est qu'à 20 km, en fin de compte, de Châteaudun.
Donc, de Châteaudun, vous prenez la route de Courtalin, vous traversez Arroux, et à la sortie d'Arroux, vous prenez sur la gauche, direction le Gau du Perche. Et là, à 7 km sur la gauche, vous verrez apparaître une tour. Les bois ont été coupés. On l'aperçoit de la route. Une tour qui fait 19 mètres de haut et qui, je vous le rappelle, a 770 ans et est toujours là.
Mais donc, ça veut dire que c'est à peu près construit à l'époque de Saint-Louis, quoi.
Exactement.
À peu près.
C'est en 1200, parce que Saint-Louis est mort en 1270 devant Tunis.
Oui.
Et la tour a été construite en 1250. Donc, tout à fait, c'était le roi de France, pendant la construction, c'était Saint-Louis.
Mais à l'époque, les Anglais ne venaient pas encore nous embêter. C'était plutôt des problèmes des Normands ou c'était des, disons, entre différents seigneurs qui se chamaillait.
La guerre de 100 ans, je ne sais pas en quelle année elle a commencé.
Dans les années 1300.
C'est ça, 1300, ouais. Ça correspond. Ouais. Donc la tour a eu un gros rôle de défense pendant la guerre de 100 ans. Elle a été prise et reprise plusieurs fois par les Anglais et les Français ont repris, et ainsi de suite.
Oui, parce que c'est vrai qu'on est en plein centre de la... On peut dire de la guerre de 100 ans, parce oui. que on a eu le fameux traité de Bretigny, donc à côté de Chartres, là, Sours. Et puis ce jour-là, le roi d'Angleterre, Édouard III, dînait à Clouat chez son ami Oudard. Et donc, Clouat, ça c'est proche d'Arroux. Oui. Et donc, nous sommes pratiquement au cœur de la guerre des 100 ans, mais au cœur, quand on parle royalement. Donc, ça veut dire que cette tour de Bois-Ruffin intéressait les Anglais parce que, bon, c'est vrai, elle les embêtait un peu quand même, parce que si elle avait été rasée, ça aurait été mieux.
Hein. Et si elle n'a pas été rasée, c'est qu'elle devait être très solide.
Elle devait être très solide.
Alors, on voit encore, au bas de la tour, il y a encore un boulet de canon en pierre. On le voit encore très bien.
Parce qu'elle a été prise et reprise par les Anglais, donc... les Anglais la prenaient, on allait reprendre la tour aux Anglais.
Bien sûr, il y a eu le maréchal de Boussicault qui a, je ne sais plus en quelle année, qui a repris la tour aux Anglais. Alors, il y a actuellement une ferme sur la commune d'Arroux qui s'appelle la Touche au Bourguignon. Et c'est une ferme qui se trouve sur la route de Arroux à Anvers. Sur la droite. Donc ça vient de ça, le nom La Touche aux Bourguignons. Les Bourguignons étaient alliés aux Anglais contre les Français.
Tout à fait. On avait d'un côté les Armagnacs, de l'autre côté les Bourguignons. Oui. Donc ça ne se passait pas bien, même à l'intérieur du peuple français. Il y en a qui se rangeaient d'un côté, puis les autres de l'autre.
Alors vous avez à un kilomètre plus loin, en direction du Gau, une petite chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Benoît, qui était construite en 1146, par les moines de Thiron-Gardet, et qui étaient, dont le rôle, ils sont venus défricher la forêt, Et ils ont construit cette chapelle-là. Et on voit encore aujourd'hui, au chevet de la chapelle, une grosse pierre. C'est un menhir. Et ce menhir faisait la séparation entre la France et l'Angleterre.
Ah, ça, c'est très intéressant. Parce que là aussi, on parle souvent de frontières. On le sait bien, quand on veut passer le Gaud-du-Perche du Loir-et-Cher en Eure-et-Loir, ça fait donc une affaire d'État. Et là, on a une pierre qui nous dit qu'on passe de France en Angleterre. C'est quand même extraordinaire.
On la voit toujours, la pierre.
On la voit toujours, la pierre.
Oui, on la voit très bien.
Mais c'est vrai que les moines de Tiron ont eu une importance dans notre région extraordinaire.
Et vous avez maintenant Stéphane Bern qui a une importance considérable à Tiron-Gardet.
Oui, bien sûr. Mais quand on a des chapelles pas très loin, à Cloua notamment, la chapelle d'Iron. La chapelle d'Iron.
Bah oui,
oui. Mais par contre, Saint-Benoît est peu connu, Saint-Benoît.
Une magnifique petite chapelle qui a été restaurée en 1990, dont la toiture et la charpente ont été en partie refaites. Et le problème, c'est qu'elle ne sert à pas grand-chose, mais elle est mignonne. Et on la voit vraiment, elle est tout à fait le long de la route.
Oui, on l'a
alors,
voir,
voilà. On l'ouvre, l'association de Bois-Ruffin l'ouvrira en même temps, on peut la visiter. Et elle a une charpente magnifique en vaisseau renversé. Une très belle charpente avec des peintures.
L'intérieur avait besoin évidemment d'une certaine restauration. Et est-ce que justement on arrive à trouver, entre guillemets, des sponsors pour arriver à remettre, non? Il n'y a pas trop de...
Je cherche des sponsors, mais ce n'est pas facile. Mais le principal, c'est que cette chapelle-là a été donc mise, clos et couvert. Le clos est couvert, et donc elle ne prend plus l'eau. Donc elle sera encore debout pendant quelques années. Mais elle est vide.
Alors, le problème que nous avons avec ces chapelles ou Bois-Ruffin, c'est de pouvoir les faire visiter. C'est-à-dire de trouver, d'une part, les guides qui veulent bien bénévolement faire visiter, mettre en valeur les sites. Et est-ce que vous arrivez, justement, à trouver suffisamment de volontaires pour pouvoir aider à mettre en valeur ces sites?
Donc, l'association Bois-Ruffin compte actuellement 50 membres, dont 8 dans le bureau. On débute, on n'a que 9 mois d'existence et on va essayer d'ouvrir. On ouvrira conjointement et Bois-Ruffin et la chapelle Saint-Benoît.
Donc je crois que vous avez un projet d'ouverture de votre chapelle. Parlez-nous-en.
Alors, le samedi 9 avril, veille du premier tour des élections présidentielles, Bois-Ruffin et la chapelle Saint-Benoît seront ouverts au public. Alors, il y aura des visites guidées à Bois-Ruffin à 15h et à 16h. Et je pense que la chapelle, on aura aussi des visites guidées.
D'accord.
Donc, je répète, retenez, samedi 9 avril, tous à Bois-Ruffin.
Où va-t-on garer toutes ces voitures?
Alors, nous avons un parking derrière Bois-Ruffin. On a un parking. Alors, c'est un champ, donc il ne faut pas qu'il fasse trop humide, parce que là, on aura des problèmes. Mais s'il fait sec, il n'y a aucun problème, on peut mettre 200 voitures.
Donc vous nous garantissez qu'on ne risque pas d'être attaqué par les Anglais si on va au Bois-Ruffin?
Garanti.
C'est garanti.
Garanti.
Donc c'est important que nous vous ayons rencontré ce matin, parce qu'il y a des sites dans notre région qui sont oubliés, qui ont une valeur historique importante, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent, et heureusement qu'il y a des associations qui arrivent à remettre un petit peu sur le devant de la scène.
Alors vous avez une tour pas très loin qui a été construite en même temps que Bois-Ruffin, et dont je pense Bois-Ruffin est la copie. C'est la tour d'Aluy. La tour d'Aluy, à côté de Bonneval, elle fait 30 mètres de haut, c'est-à-dire 10 mètres de plus que Bois-Ruffin, mais elle a beaucoup, beaucoup de similitudes avec Bois-Ruffin. Alors, le problème de la tour d'Aluy, c'est qu'on ne peut pas trop y aller parce que c'est à l'intérieur d'une école. Il y a une école pour handicapés à Aluy. Et c'est ouvert, je crois, le jour des monuments historiques, et c'est tout.
Eh bien, docteur, nous vous remercions de toutes ces informations et à bientôt.